Bienvenue dans The Debate. Être président en Iran, c'est un peu comme conduire une voiture où vous avez accès à la pédale d'accélération, mais c'est le guide suprême qui contrôle le volant.
Ouais, et les freins avec.
Exactement. Et depuis peu, c'est Massoud Pezeshkian qui s'est installé sur ce fameux siège du conducteur.
C'est une excellente image. Surtout que l'élection de ce chirurgien réformateur, qui a été organisée un peu dans l'urgence après la mort d'Ebrahim Raïssi, elle a plu beaucoup de monde de cour. Il a quand même battu l'ultra-conservateur Saïd Jalili avec 53,6% des voix. Ce n'est pas rien.
C'est énorme. Et la question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si cette élection représente une véritable opportunité d'apaisement interne et d'ouverture diplomatique. Moi, je suis convaincu que ce scrutin offre une vraie fenêtre de changement.
Inexorablement se heurter à la réalité des institutions iraniennes.
Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi ton observateur parle d'une opportunité inédite, il faut d'abord regarder la dynamique électorale.
Ouais.
Le taux de participation a fait un bond vraiment impressionnant. On est passé d'un niveau historiquement bas, autour de 40% au premier tour, à près de 50% au second.
C'est vrai, ouais.
Avec le soutien très affiché de Mohamed Javad Zarif, vous savez, l'ancien ministre derrière l'accord sur le nucléaire de 2015, Pezeshkian a réussi à mobiliser les abstentionnistes. La population lui a donné un mandat clair pour renouer le dialogue avec l'Occident et relancer une économie qui s'effondre.
Écoutez, je ne remets absolument pas en cause ces chiffres de participation, mais soyons réalistes sur la mécanique du pouvoir et surtout sur la raison pour laquelle le régime a laissé un réformateur gagner.
Vous parlez de la pression interne.
Voilà. Après les manifestations massives de 2022, le système avait désespérément besoin d'une soupape de sécurité pour relégitimer ses institutions aux yeux du public. Le problème de fond, c'est que la Constitution ne donne tout simplement pas le dernier mot au président. L'autorité suprême, que ce soit sur la politique étrangère ou la sécurité, ça appartient à l'ayatollah Ali Khamenei.
C'est vrai sur le papier, je vous l'accorde. Mais, enfin, regardez le profil atypique de Pezeshkian. Il n'a rien d'un révolutionnaire. Et c'est justement là que réside sa force.
Ce qui est précisément le problème, non?
Pas forcément. C'est un ancien médecin militaire, profondément loyal envers le système. Il ne se présente pas comme un rebelle qui veut tout casser, mais plutôt comme un médecin au chevet d'un pays malade.
Ne pensez-vous pas que cette loyauté affichée pourrait agir comme une sorte de passe-partout? Ça lui donnerait accès au cercle du pouvoir pour négocier des compromis, là où des réformateurs plus radicaux ont toujours échoué?
Justement, cette fameuse loyauté, c'est son plus gros point faible. Pour opérer des changements économiques profonds, il doit affronter les gardiens de la révolution. Or, ce n'est pas juste une armée idéologique, c'est un véritable empire financier.
Oui, c'est un obstacle de taille et un empire sécuritaire qui contrôle des pans entiers de l'économie et qui répond directement et uniquement au guide suprême. D'ailleurs, Khamenei a publiquement fustigé les partisans d'un rapprochement avec les États-Unis juste avant le vote.
C'est vrai.
Il a qualifié l'idée même de ces négociations de, je cite, ni sage ni honorable. L'appareil sécuritaire ne laissera aucune place à ces promesses de concorde.
Mais le contexte politique compte énormément. La défaite de Saïd Jalili, elle est massive. Jalili, c'était le candidat de la ligne dure, l'incarnation du refus de tout compromis avec l'Occident.
Ah, le fameux vote de barrage.
Exactement. Près de 16 millions d'Iraniens ont voté spécifiquement pour faire barrage à cette intransigeance. Ça lui donne un capital politique considérable. Si Pezeshkian utilise ce poids populaire pour relancer le JCPOI, l'accord sur le nucléaire, il peut lever les sanctions américaines.
C'est un grand si.
Mais c'est possible. Le fait que Riyad et Moscou se soient empressés de le féliciter montre bien qu'il est pris au sérieux à l'international.
La fatigue de la population face aux sanctions est indéniable, on est bien d'accord là-dessus. Mais en Iran, la politique étrangère et encore moins le dossier nucléaire, ça ne se décide pas par les urnes.
Ça s'influence tout de même.
Très marginalement. Ces décisions se prennent au sein du Conseil suprême de sécurité nationale, sous le contrôle absolu de Khamenei. Le mur institutionnel est conçu précisément pour empêcher un président d'imposer un changement de cap structurel de ce genre.
Donc vous pensez qu'il est bloqué d'avance?
Ses ambitions diplomatiques risquent fort d'être étouffées bien avant d'atteindre la table des négociations, oui.
Au fond, tout l'enjeu va consister à observer la véritable marge de manœuvre que Pezeshkian saura arracher en coulisses. S'il parvient à utiliser ce sursaut démocratique comme levier face aux gardiens de la révolution, on pourrait tout de même assister à des ajustements décisifs.
C'est en effet le vrai test. Est-ce qu'il pourra trouver une faille dans ce verrouillage institutionnel ou est-ce que le système va simplement l'absorber? L'histoire politique de l'Iran nous a plutôt habitués à la seconde option, mais La dynamique mérite clairement d'être suivie.
Le débat reste entier, oui. Ce sera fascinant de voir comment ce nouveau conducteur va manœuvrer avec des freins contrôlés par d'autres. C'est à vous, chers auditeurs, de forger votre propre opinion sur la capacité de cet homme à transformer l'essai. À bientôt pour un prochain débat.